Of Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse, toute sa diversité. Et ce soir, c'est avec, pour la rédaction hispanophone, Asbel Lopez.
Hola, ¿qué tal?
Pour la rédaction portugaise, Marco Martins.
Boa tarde.
Bonsoir, Daniel Singleton. De la rédaction anglophone. Avant de découvrir les actualités qui ont particulièrement attiré votre attention dans vos zones de diffusion, intéressons-nous à la très vive tension qui oppose la Chine à l'Union européenne, notamment la France. Depuis une semaine, c'est la question de la répression dont est victime la communauté des Ouïghours. Et Daniel Singleton, tout particulièrement depuis l'annonce de la visite à Taïwan de sénateurs français.
Oui, alors effectivement, il y a eu ça, mais le crescendo de tension dans les relations entre la Chine et l'Union européenne et la France, évidemment, qui n'est pas épargnée, mais aussi les États-Unis. Donc, pour rappel, l'ambassadeur de Chine, en ce qui concerne la France, l'ambassadeur de Chine en France, avait été convoqué par le Quai d'Orsay après ses propos qui étaient très peu mesurés à l'encontre d'un chercheur que nous connaissons bien à RFI, puisqu'on l'interviewe souvent, et d'un député français, donc la convocation d'ailleurs qui avait été allègrement ignorée par l'ambassadeur chinois. Les Allemands, à leur tour, les Belges, les Danois, les Néerlandais, les Italiens ont aussi convoqué les ambassadeurs chinois, et mentionnons bien sûr que l'ambassadeur de l'Union européenne en Chine a été sommé de se rendre au ministère des Affaires étrangères à Beijing. La racine, en fait, de cette hostilité grandissante, ce sont les sanctions annoncées contre des officiels chinois par Bruxelles, par Washington, par Londres, par Ottawa, suite à leur condamnation des violences perpétrées par Beijing contre les Ouïghours dans la province de Xinjiang. En ce qui concerne l'Union européenne, c'était les premières sanctions depuis 30 ans. Elles avaient été prises alors à la suite du massacre de la place de Tiananmen. Alors,
quand vous parlez de Beijing, c'est en anglais Pékin, hein, Pékin en bon français.
En bon français.
Daniel Singleton, la Chine, le gouvernement de Pékin, justement, n'a bien évidemment pas manqué de réagir.
Oui, alors avec des tweets vengeurs assez rapidement envoyés de la porte-parole de la diplomatie chinoise qui fustigeait l'arrogance et l'ignorance des Européens, et prétend que les populations de l'Union européenne, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada ne représentent en fait que 11% de la population mondiale. Donc, même s'ils protestaient, ils ne représentaient pas les vues de l'opinion de la communauté mondiale. Et bien sûr, les sanctions annoncées par Pékin, à l'encontre des parlementaires, y compris l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann, on s'en souviendra, contre des universitaires et même d'organisations européennes qui sont désormais non grata en Chine. Et puis, il y a eu, on s'en souvient, ces échanges musclés lors de la récente rencontre États-Unis-Chine en Alaska, entre le conseiller d'État chinois Zhang Jiechi et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
Alors, je le disais, il y a les Ouïghours, bien évidemment, qui créent des tensions. Il y a également Taïwan. Hein. Taïwan fait pleinement partie de l'équation de cette escalade diplomatique.
Oui, et justement, c'est là où la France intervient dans tout cela aussi. La Chine, effectivement, s'inquiète, en particulier du soutien sans faille de Washington à Taipei, malgré le passage de gouvernement, le passage du relais entre Donald Trump et Joe Biden. Et cela aussi malgré l'annulation en janvier de la visite prévue à Taïwan de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Kelly Craft. Kelly Craft qui avait d'ailleurs été nommée elle-même par Donald Trump. La raison officielle pour l'annulation de son voyage, c'était tout simplement qu'on attendait le passage à la présidence officielle de Joe Biden. Mais l'ire de la Chine, alors envers la France, s'est rallumée lorsqu'un groupe de sénateurs français a annoncé récemment une visite à Taïwan pour cet été. Pékin a tout de suite réagi en insistant que le groupe n'ait aucun contact avec les autorités.
Et puis,
on en est là.
La France et l'Union européenne ne sont pas les seuls concernés, hein.
Non. Alors, par exemple, aujourd'hui, Londres vient de condamner l'annonce par Pékin de sanctions contre 9 personnalités et 4 entités britanniques. Toujours suite aux mesures qu'avait prises Londres aux côtés de l'Union européenne, des États-Unis et du Canada, après leur condamnation des atteintes aux droits humains au Xinjiang. Ce qui est remarquable, il faut, dans ce cas-ci, c'est que c'est la première fois que Pékin s'en prend à des citoyens britanniques. Et il faut aussi se rappeler que les positions de Londres au sujet de Hong Kong ont ajouté à l'hostilité de Pékin.
Alors, est-ce qu'on a une idée sur qui va gagner ce bras de fer, finalement ?
Eh bien, pour l'instant, non. Chacun marque son territoire. Ce sont des gestes de matamor. Remarquons cependant que pendant que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était au sommet de l'OTAN à Bruxelles cette semaine, pour renouer les liens après des années difficiles de la présidence Trump, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lui, effectuait une visite en Chine. Et il est venu parler de la nécessité de renforcer les liens entre Moscou et Pékin. Et quant à lui, le leader nord-coréen Kim Jong-un a écrit au président chinois Xi Jinping pour lui demander de consolider l'unité entre leurs deux pays. Donc voici un nouveau front qui pourrait s'opposer justement aux pays dits occidentaux.
Marco Martins, cette tension entre l'Europe et la Chine, comment est-ce qu'elle est perçue par le Portugal ?
Il faut savoir que le Portugal a une relation assez spéciale avec la Chine. Pendant environ 5 siècles, les Portugais étaient présents à Macao, un territoire qui leur a été cédé par la Chine, et ils ne l'ont cédé aux Chinois qu'en 1999. Cela montre bien que le lien n'est pas né seulement à cause de relations commerciales, de partenariats ou même d'idéologie politique, c'était également territorial.
Alors comment le Portugal se positionne diplomatiquement concernant toutes ces tensions ?
Avec une certaine diplomatie. L'eurodéputé portugaise du parti d'extrême gauche Bloco de Esquerda, Marisa Matias, admet que l'Union européenne doit sanctionner mais ne doit pas faire de sélection dans les combats à défendre. Et elle enfonce le clou quant à la Chine, affirmant que le gouvernement chinois ne sait pas gérer les critiques. On va l'écouter.
Não é a primeira vez que as autoridades chinesas impedem personnalidades d'entrar no seu território.
Que dit-elle ?
Elle nous dit que c'est habituel de voir ce type de sanctions de la Chine. D'ailleurs, le coordinateur de son parti avait été interdit d'entrer sur le territoire chinois. En ce qui concerne les sanctions européennes, elle reconnaît que le problème des Ouïghours en Chine est un combat à défendre, mais que l'Union européenne sélectionne souvent ces combats. Elle avait fermé les yeux sur d'autres atteintes aux droits de l'homme dans d'autres pays. Quant à la Chine, pour Marisa Matias, elle ne sait pas gérer les critiques.
C'est que le Portugal ne peut pas se passer de relations avec la Chine.
Cela est compliqué. On se rappelle que l'État portugais a même délivré des visas gold, des visas qui permettaient aux investisseurs, surtout chinois, de s'installer au Portugal. Et comme vous l'avez dit, le Portugal a de bonnes relations avec la Chine. C'est une porte ouverte en Europe pour les produits chinois.
Et puis, les relations sont un peu tendues à cause d'un autre problème, pas forcément l'échange de sanctions entre l'Union européenne et la Chine.
Une autre polémique a enflé ces derniers jours. 6 journalistes qui travaillent à TDM, la télévision et radio de Macao, ont présenté leur démission car ils n'étaient pas d'accord sur la ligne éditoriale que pourrait prendre la chaîne.
Alors justement, quelle ligne éditoriale ?
Selon des sources au sein de la rédaction, le 10 mars passé, la direction de la chaîne de télévision, qui a aussi une partie à radio, aurait demandé à ses journalistes de ne plus divulguer des informations contraires à la politique de la Chine et qu'ils devaient adhérer au principe de patriotisme et de l'amour pour Macao. 6 journalistes qui étaient au sein de la rédaction en portugais ont décidé de partir car pour eux, il y a une atteinte à la liberté d'expression sur un territoire qui jouit d'une autonomie, à l'instar de ce qui existe à Hong Kong.
Alors je suppose que le ministre des Affaires étrangères a dû s'exprimer sur ce sujet, non ?
Tout à fait, il a fait valoir une vieille loi, enfin pas si vieille que cela car elle date de 1999. En cette année, le Portugal cède Macao à la Chine. Un accord bilatéral définit que Macao sera administré par une loi base qui sera appliquée pendant un demi-siècle, donc jusqu'en 2049. On va l'écouter.
Macao está num processo de transição, desde a transferência da administração portuguesa para a administração chinesa.
Alors, que dit ce ministre des Affaires étrangères ?
Que la Chine doit respecter l'accord signé avec le Portugal. Et il rappelle les fondements de cette loi. Liberté d'expression, de la presse, d'édition, d'association, de réunion, de défilé et de manifester. Il espère donc que la Chine respecte cette loi, comme le Portugal la respecte. Il rappelle d'ailleurs que Macao est toujours dans un processus de transition entre l'administration portugaise et la chinoise.
Alors, le Portugal et l'Europe, comment est-ce qu'ils peuvent faire entendre ce qu'ils ont à dire à la Chine ?
Bien, à partir du 8 mai prochain, il va y avoir un sommet entre l'Union européenne et l'Inde. Il pourrait y avoir des accords entre les deux entités. Rappelons d'ailleurs qu'Antonio Costa est très favorable à cette relation avec l'Inde, lui dont le père avait des origines indiennes.
Et puis en Amérique latine, Asbel Lopez, est-ce qu'il y a dans cette région du monde, que vous suivez au sein de la rédaction en espagnol, des pressions de la part de la Chine ?
À ce propos, nous avons interviewé au sein de notre rédaction un expert dans les relations entre la Chine et l'Amérique latine. Il s'agit de Evans Ellis, un Américain qui travaille sur la question depuis 17 ans. Il est membre du Centre d'études stratégiques et internationales, un think tank basé à Washington. Il fait appel à une métaphore pour évoquer les relations de n'importe quel pays avec la Chine.
Parte del poder de China es que ellos torcían el cuchillo en la espalda de forma silenciosa hasta que su
C'est donc Evan Ellis qui parle pour dire quoi?
Alors, les Chinois plantent un couteau dans le dos de ses partenaires. Ensuite, ils attendent qu'ils cèdent, d'où la multiplication des contrats faramineux dans plusieurs pays. C'est par l'économie qu'ils essayent de tenir le contrôle. Tout ça, bien évidemment, en silence, discrètement. Ce n'est pas comme ça que les Américains agissent, poursuit-il. Quand un pays ne respecte pas un principe, les Américains, au contraire, dénoncent publiquement. Ils font grand bruit. Ensuite, ils attendent que leurs partenaires l'admettent et qu'ils reviennent sur leurs décisions. Ceci n'est pas absolument pas le style chinois. Il est par ailleurs de plus en plus évident que la diplomatie chinoise est plus offensive et surtout sans la moindre volonté de faire semblant. À bas les masques, désormais, ils montrent leurs muscles. Ce n'est pas un hasard si les diplomates de l'ère Xi Jinping sont appelés l'élu combattant. Ils ne veulent plus subir les critiques des Occidentaux sur la question des droits de l'homme. Et bien sûr, ils ne cachent pas non plus leurs ambitions.
Alors justement, ces ambitions de la Chine concernant l'Amérique latine, faites-nous un point.
Les mêmes que dans le reste du monde. Précisons d'abord que ce n'est pas comme lors de la guerre froide entre l'Occident et l'ex-Union soviétique. La politique et l'idéologie ne sont pas au centre du conflit. Selon Ellis, ce que cherche la Chine, c'est de réorienter le monde pour son propre bénéfice économique. Pour combattre cette volonté de domination économique chinoise, Ellis pense qu'il faudrait renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'Amérique latine.
Par exemple, à travers le Mercosur ?
Oui. Or, ce qu'il constate, c'est que les Européens, ou en tout cas certains pays, continuent à renforcer les liens économiques avec Pékin, au lieu de privilégier la coopération avec l'Amérique latine. La principale carte à jouer pour faire face à la Chine, selon lui, c'est la multiplication des projets de coopération entre Occidentaux. Par exemple, dans la 5G, privilégier une compagnie européenne à qui l'on peut faire confiance, par exemple Ericsson, au lieu de passer par Huawei, car les données personnelles peuvent terminer dans les mains des autorités chinoises. Les dernières tensions entre l'Union européenne et Pékin illustrent, en tout cas, que les Européens prennent de plus en plus conscience que le défi de la Chine n'est pas seulement pour Washington, mais pour l'Occident.
Voilà, dans Accent du Monde, ce qu'on pouvait dire sur cette Chine, la manière dont elle est perçue dans le monde aujourd'hui, avec ses différentes politiques, diplomatiques, économiques et autres. Vous écoutez Radio France Internationale.
This is Radio France International.
De Paris, Arachi, Telmoir.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI, la pandémie de coronavirus, bien évidemment. Aujourd'hui, l'Allemagne a classé la France entière, y compris les territoires d'outre-mer, comme zone à haut risque d'infection au Covid-19. Il y a 4766 patients Covid en réanimation, donc en France, où de nouvelles mesures annoncées et d'autres encore plus sévères pourraient être décrétées dans les prochains jours, avec parfois des injonctions contradictoires, des hésitations, des incompréhensions chez certains Français. Voyons comment la rédaction anglophone observe tout cela, Daniel Singleton.
Eh bien, il faut le dire, pour la presse britannique, la presse anglophone, c'est en France qu'on peut voir un exercice d'équilibrisme permanent auquel on assiste dans le pays depuis plusieurs semaines, alors que le virus et tous ses variants progressent malgré les restrictions mises en place ces derniers mois. Pour résumer, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est non au confinement total, comme celui imposé de mars à mai l'année dernière, alors que les taux de contamination et d'admission à l'hôpital en ce moment atteignent ceux du deuxième confinement. mais dans 19 départements, car 3 viennent d'être rajoutés cette semaine aux 16 qui avaient été annoncés le week-end dernier, le gouvernement a introduit ce que certains ont décrit ironiquement comme un confinement à l'extérieur. Il veut dire, par exemple, que dans les départements concernés où ces mesures ont été mises en place, on a le droit de sortir de 6h à 19h sans justification, dans un rayon de 10 km, ayant seulement besoin d'une preuve de domicile. Au-delà, bien sûr, il faut un justificatif, et les déplacements hors région sont interdits, et le couvre-feu court de 19h à 6h le lendemain matin.
Alors ça, ce sont les nouvelles mesures qui ont été annoncées par le gouvernement très récemment. Est-ce que cela marche? Est-ce qu'on a déjà un recul?
Alors, le gouvernement, effectivement, met bien en avant, en exergue qu'il n'y a pas assez de recul pour quantifier les résultats. Mais cependant, les chiffres ne montrent guère d'amélioration dans les régions où les restrictions sont en place depuis des semaines. Et jeudi, c'est-à-dire hier, en visite à l'hôpital de Melun, Jean Castex, dont le Premier ministre, a jugé la situation extrêmement préoccupante. Et ce, en raison du variant britannique, particulièrement en Île-de-France, donc où se trouve Paris, où le taux d'incidence frôle les 600 pour 100 000, et où 1410 malades sont en réanimation, c'est-à-dire 300 de plus que lors de la deuxième vague. La situation est si tendue que Jean Castex a annulé un déplacement ce vendredi dans la Manche et devait au contraire mener une nouvelle réunion avec les préfets et les directeurs généraux des agences régionales de santé des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a même annoncé cette semaine que 80% de déprogrammation d'opérations serait sans doute nécessaire, d'après lui, dans les hôpitaux franciliens, afin de porter les capacités en réanimation à 2250. Or, ces services, bien sûr, accueillent des malades graves qui sont de plus en plus jeunes, a-t-il expliqué.
Et bien évidemment, Daniel Singleton, là on parle de la France, mais cette crise impacte tout le monde, notamment en Europe.
Oui, alors il serait difficile d'en parler. Effectivement, l'Italie, l'Allemagne aussi, la Pologne ont par exemple introduit des mesures, des restrictions supplémentaires sans décréter un confinement total. Mais il faut remarquer qu'après la réunion du Conseil européen hier, Emmanuel Macron a réaffirmé droit dans ses bottes que le gouvernement avait eu raison de ne pas confiner le pays en janvier, comme beaucoup d'experts médicaux à l'époque le réclamaient et le réclament encore, car il y a des lueurs d'espoir. 10 millions de Français auront été vaccinés autour du 20 avril, d'après lui, et l'Europe, a-t-il ajouté, pourrait atteindre une immunité collective une fois l'été arrivé. Cependant, entre-temps, les choses ne s'arrangent guère. Et d'ailleurs, deux ministres du gouvernement ont été atteintes sérieusement et ont dû être hospitalisés. Si la ministre du Travail, Elisabeth Borne, est maintenant sortie de l'hôpital, Roselyne Bachelot, la septagénaire ministre de la Culture, est toujours en traitement intensif. Et l'Allemagne, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Philippe, vient d'inclure la France sur sa liste rouge. Il va donc, ce qui veut dire qu'il va restreindre les déplacements entre les deux pays, alors que ces mesures jusqu'à présent ne concernaient que le département français de la Moselle.
Alors, dans tout cela, quoi de mieux que de désigner des coupables?
Ah, ça, bien sûr, c'est presque un poncif. Évidemment, c'est un va-et-vient entre critiques acerbes d'AstraZeneca, donc l'un des fabricants du vaccin, et critiques pas plus amènes à l'encontre de Londres. Le dernier en date, dernier à critiquer, est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui ce matin, dans la radio France Info, a accusé les Britanniques de chantage, car Londres demande à ce qu'il n'y ait pas d'interdiction d'exporter les vaccins, notamment vers le Royaume-Uni, qui n'a qu'une seule unité de production AstraZeneca sur son territoire, il faut le rappeler, parce que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, se prépare à la deuxième injection.
Merci donc pour ce point sur la situation du coronavirus et les différentes tensions que cela crée au niveau européen. C'était Daniel Singleton de la rédaction anglophone de RFI. Le football dans les pays d'Afrique lusophone est très important, encore plus en ces temps de pandémie. C'est l'un des divertissements qui peut encore être regardé à la télévision. Les lusophones ont une énorme passion pour ce sport et cette semaine, la rédaction en langue portugaise s'est beaucoup penchée sur les problèmes des joueurs africains qui n'ont pu rejoindre leur sélection. Il en a été question notamment dans Radio Foot International sur notre antenne. Margot Martins, rappelez-nous d'abord de quoi il s'agit précisément.
La FIFA, qui gère le football mondial, a adressé un communiqué aux différents clubs européens, leur laissant le choix de libérer ou non leurs joueurs pour les matchs internationaux de ce mois de mars. Tout cela à cause de la pandémie qui touche plusieurs pays européens. Pour ne pas pénaliser les clubs qui payent les joueurs, ils pouvaient décider de ne pas les libérer, car au retour, ils auraient dû, par exemple, passer par une quarantaine ou tout du moins un isolement, ce qui pénaliserait le club.
Alors, comment tout cela s'est organisé finalement ?
Les joueurs, les clubs et les fédérations sont passés à la table des négociations pour que tout le monde soit satisfait.
Alors, où était le problème ?
La France a pris une décision surprenante. La Ligue de football, qui regroupe les clubs de la première et de la deuxième division, a décidé de stopper les tractations au cas par cas et a pris une décision pour tout le monde. Aucun club, avec accord, sans accord, que le joueur soit important ou pas, il n'y aurait aucune libération de joueurs pour jouer en dehors de l'Union européenne.
Et ça ne concerne pas seulement l'Afrique, hein ?
Non, et c'est ce qui a fait enfler la polémique. L'attaquant hollandais de Lyon, Memphis Depay, s'étonnait de ne pas pouvoir jouer en Turquie, tandis qu'au même moment, les joueurs de la sélection française avaient eu une dérogation pour jouer au Kazakhstan.
D'où, Marco, ce rétropédalage, hein, on peut le dire, de la Ligue française.
Pas vraiment, c'est plus le ministère des Sports qui a annoncé que tout le monde aurait une dérogation si les joueurs respectaient une bulle sanitaire. Pour ceux qui partaient en Afrique, cela voulait dire un avion privé et des tests PCR régulièrement. Mais cette décision est intervenue moins de 5 jours avant les premiers matchs décisifs pour la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais, donc pas facile d'organiser cela à la dernière minute. Comment ont réagi les sélectionneurs ?
Évidemment, ils étaient déçus et ne comprenaient pas qu'une telle décision ait été prise par la France, grande pourvoyeuse de joueurs africains. On va écouter tout d'abord Basirou Kandé, sélectionneur de la Guinée-Bissau, qui a dû se passer de 6 joueurs évoluant en France.
Eu acho que não tem lógica. A FIFA não deveria ter pronunciado, porque aí há uma discrepância muito
muito. Que dit le sélectionneur guiné-bissau?
Il est révolté. Il ne comprend pas que la FIFA ait ouvert cette porte au club et il ne comprend pas comment la France a pu faire cela. Il rappelle que les instances internationales veulent voir évoluer le football en Afrique, mais après ils prennent des décisions qui leur portent préjudice. Il a dû se passer de 6 joueurs, car la fédération n'a pas les moyens de faire venir les joueurs sur un avion privé. Il a donc dû appeler d'autres joueurs, mais cela a été à la dernière minute. Or, les sélectionneurs envoient les listes des convoqués des semaines avant les matchs. Donc, il aurait fallu y penser avant et ne pas mettre en péril le travail de beaucoup de sélections, dont la Guinée-Bissau.
Et Basirou Kandé n'est pas le seul à être mécontent.
Luís Gonçalves, le sélectionneur du Mozambique, n'a pas non plus apprécié cette décision. On l'écoute.
Acredito que a intenção fosse boa, mas ao tomar-se uma decisão dessas e permitir isso...
Alors, je vais dire à la française, Luis Gonçalves, que vous a-t-il dit ?
Il pense que la décision de la FIFA était certainement bonne, car il est vrai que la pandémie a compliqué les déplacements, mais cela a été préjudiciable pour la sélection mozambicaine, car elle comptait sur Mechir et Reinildo, qui jouent en France, et ils se retrouvent sans eux, sûrement les deux meilleurs défenseurs de la sélection. Cette décision de la FIFA et des instances françaises crée un sentiment d'injustice, car il y a des cas particuliers dans chaque sélection, mais sur le fond, l'équité sportive ne sera pas appliquée ici. Entre des sélections qui ne se passent d'aucun joueurs et d'autres qui se retrouvent sans leurs meilleurs éléments. Les conséquences peuvent être dramatiques si le pays ne se qualifie pas pour la CAN.
Alors l'absence de ces joueurs, Marco Martins, a-t-elle été finalement préjudiciable aux uns et aux autres ?
Pour le Mozambique, oui, ils ont perdu 1-0 face au Rwanda, qui n'avait remporté aucun de ses 4 précédents matchs. Les Mozambicains occupaient la deuxième place, étaient presque qualifiés, et là, ils se retrouvent derniers. Et on passe d'être éliminé.
Bon, bah tout ça crée bien des problèmes au monde du football. Vous suivez ça donc bien sûr avec beaucoup d'attention à la rédaction lusophone de Radio France Internationale. C'était Margot Martins. De la rédaction hispanophone de Radio France Internationale à présent, Asbel Lopez. Alors vous voulez attirer notre attention cette semaine sur un vidéoclip qui dérange les autorités cubaines. Il s'agit de Patria y Vida, la patrie et la vie, non pas Patria o Muerte, la patrie ou la mort, le slogan de la révolution cubaine de 1900. 59. Écoutons-en un extrait.
A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos
pa'. Asbel López, pourquoi cette chanson dérange donc-t-elle les autorités cubaines aujourd'hui?
Car elle détourne le slogan de la révolution. Depuis 62 ans, des générations de Cubains ont été versées par cette phrase « Patria o muerte », la patrie ou la mort. En d'autres termes, qui n'est pas pour la révolution est contre et il doit subir les conséquences. Six rappeurs, tous Cubains, tous noirs, chante contre cette expression. Ils considèrent qu'elle est complètement dépassée. Ils ne veulent plus de la mort ni de mensonges. Mon peuple réclame la liberté. Nous ne voulons plus de doctrine, dit aussi la chanson.
Alors, une chanson qui circule sur les réseaux sociaux, qui a déjà dépassé les 4 millions de vues, ce qui est énorme hein, pour un clip filmé, pour partie, en secret. Il a été tourné en secret, ce clip.
En effet, Philippe, car parmi les 6 artistes, 2 d'entre eux habitent toujours à La Havane, où ils subissent les pressions des autorités. Entre autres, détention arbitraire pour quelques heures. Ils ont dû se cacher pour enregistrer leur part du vidéoclip, tourné aussi à Miami. Nous avons interviewé l'un d'entre eux, El Funky. Nous lui avons posé une question sur ce que dit le rappeur Jotuel, un de 6 chanteurs. Car Jotuel insiste sur le fait que ce sont 6 noirs cubains, et même 6 sireurs de pompes noires cubains.
De chaussures.
Exactement, car c'est comme ça qu'il a été traité lui-même par un fonctionnaire quand il habitait l'île. Funky nous a expliqué pourquoi cette remarque de Jotuel.
Molesta porque en realidad, aunque no lo crean, en Cuba existe racismo. En Cuba hay racismo. Y... Es lo que tú dices, al ver seis negros.
Asbel López, aidez-nous à comprendre ce qu'il dit.
Oui,
El Funky.
Donc El Funky dit qu'il y a effectivement du racisme à Cuba, même s'il est difficile à croire, ajoute-t-il, le racisme est une réalité aujourd'hui sur l'île. Pour eux, cette notoriété mondiale est une belle revanche. Pour terminer, je vais vous donner les noms des 6 artistes, Michael Osorbo et El Funky, qui sont toujours à Cuba, comme nous avons dit. Et les 2 chanteurs de Gente de Zona, Randy Malcon et Alexandre Delgado, Jotuel Romero y December Bueno.
Et puisque nous avons encore un peu de temps, nous allons écouter, réécouter ce clip qui a donc pour titre « La patrie et la vie ».
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo 2'2", 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5'9", 2'2".
Ya se acabó,
60 años, trancada el dominó, mira.
La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteado.
La patrie et la vie, une musique cubaine dans Accent du Monde sur Radio France Internationale. Voilà pour cet éclairage sur ce qu'il y a à écouter sur RFI, à retrouver également sur les différents sites internet des rédactions du Monde de Radio France Internationale. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.
La marche du monde, Valérie.